l'occasion de l'exposition consacrée à Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou, nous avons souhaité vous faire découvrir cette artiste américaine. Née en 1887, disparue en 1986, elle est reconnue et célébrée aux États-Unis, mais c'est seulement aujourd'hui que la France la découvre avec cette première exposition. Au cours de cette émission, vous allez entendre sa voix, issue du film de Perry Miller Adatto de 1977, et les analyses de Camille Viéville, auteur d'une énorme monographie de l'artiste parue aux éditions Citadel et Masneau, ainsi que la critique d'art Catherine Millet qui a participé au catalogue. Puis en seconde partie d'émission, nous vous emmenons pour une visite guidée de l'exposition avec Marie Garraud, auteure de la biographie Georgia O'Keeffe, une icône américaine. Mais comme chaque soir, on commence en musique avec Girl from the North Country de Bob Dylan et Johnny Cash.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best.
If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
If you're traveling in the North Country Fair,
where the winds hit heavy
on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love.
Catherine Millet et Camille Viéville, comment avez-vous, chacune d'entre vous, rencontré, si j'ose dire, pour la première fois Georgia O'Keeffe, Catherine Millet?
J'ai dû voir des tableaux dans des musées américains. Je crois que c'est la première rencontre. Ensuite, peut-être J'ose à peine le dire, à travers les photos que Alfred Seglitz a fait de sa femme,
et qui mais sont si, tellement, faut le dire.
Et qui sont tellement, tellement magnifiques et
nues. Donc,
elle est d'abord elle est très belle, et ensuite les photos sont très belles aussi. Et en effet, elle est nue, et si je peux tout de suite commenter, je dirais que ce qui me plaisait beaucoup, c'était que elle était déjà une femme assez connue. En fait, elle avait exposé, elle était déjà dans ce milieu artistique.
Donc c'était dans quelles années que vous l'avez?
Ah, que moi j'ai.
Vous êtes tombée sur son œuvre
et sur ses photos. Je peux pas dater. Il me semble que pour moi, elle a toujours fait partie de la scène américaine, contrairement peut-être un peu à une thèse parfois qui est avancée aujourd'hui, quoi. Pour moi, elle a toujours existé parmi les peintres américains.
Elle a toujours existé. Manifestement, Camille Viéville, vous ne dites pas le contraire dans le majestueux ouvrage que vous lui consacrez. Mais ce que vous dites, par contre, c'est que la France l'a très longtemps ignorée.
Oui, la France l'a très longtemps ignorée. Et pour moi, la vraie rencontre me concernant avec Georgia O'Keeffe, c'était justement à la Tate à Londres, où il y a eu une rétrospective il y a plusieurs années. Mais en France, il y a eu très peu de choses en dehors d'une exposition en 2015 au musée de Grenoble. Et il n'y a qu'une seule œuvre dans les institutions publiques françaises, au Musée National d'Art Moderne.
Et qui encore n'est pas un achat, mais une donation.
Absolument, de la Georgia O'Keeffe Foundation. Dans les années 90. Donc, ce n'est pas facile quand on est en France de découvrir et de rencontrer l'œuvre d'O'Keeffe.
Qui est Georgia O'Keeffe pour vous, Camille Viéville?
Pour moi, c'est un très grand peintre, une immense artiste et une personnalité assez unique dans l'histoire de l'art américain du XXe siècle.
Mais encore, quand on lit votre ouvrage consacré à la vie et au travail de Georgia O'Keeffe, on s'aperçoit qu'elle vient d'un milieu plus que favorisé, extrêmement cultivé, qu'elle a reçu une éducation artistique dès son plus jeune âge, mais elle n'était pas la seule, elle fait partie d'une grande fratrie, et ses frères et ses sœurs aussi, et qu'il lui a fallu pas mal de temps pour trouver, entre guillemets, sa patte personnelle.
Oui, alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, elle vient d'une famille de fermiers, mais d'origine européenne, et notamment sa mère avait reçu une éducation assez élevée. Et ses parents ont été favorables à ce qu'elle choisisse la voie artistique, ce qui n'était pas du tout une évidence à la fin du 19e siècle au fin fond du Wisconsin. Et effectivement, elle a reçu, elle a un parcours, elle est passée par l'Art Institute de Chicago, elle a fait différentes institutions académiques new-yorkaises, et il lui a fallu attendre presque la trentaine pour trouver sa voix, trouver son style, trouver son propre moyen d'expression.
Qui est Georgia O'Keeffe pour vous, Catherine Millier?
C'est une femme libre, c'est ça qui me vient à l'esprit tout de suite, et moi c'est ce qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai répondu à la commande de Didier Ottinger, qui m'a demandé un texte pour l'exposition du Centre Pompidou. En fait, l'idée de Didier, c'était les relations entre Georgia O'Keeffe et D.H. Lawrence, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley, parce que c'est la même époque, ils sont exactement contemporains, et puis voilà, ils expriment une sensualité dans leur œuvre, comme ça qu'on peut mettre en parallèle, qui a été beaucoup d'ailleurs commenté. Mais au-delà de ça, moi,
ils ne se sont pas rencontrés,
ils
je
se
crois.
Sont pas rencontrés.
Mais par
ils
contre,
se sont
Georgia O'Keeffe a peint.
Alors, elle a peint un arbre qui est l'arbre de Lawrence et qui était, l'arbre qui était à côté du petit ranch qu'il a habité pendant quelques années au-dessus de Taos. Mais lorsqu'elle est arrivée dans ce petit ranch et qu'elle s'est couchée sous l'arbre comme ça pour l'admirer, le tableau est ça c'est un très très beau tableau. Lawrence était déjà rentré malade en Europe. Mais ce que je veux surtout insister sur le fait, c'est que c'est une femme qui a, c'était une petite provinciale quand même, voilà, avant de débarquer à New York. Et elle a vraiment pris son destin en main comme ça. Et à mon avis, elle l'a pris deux fois. La première fois, quand elle a décidé de quitter sa province pour venir à New York et rencontrer Ed Stieglitz. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est que elle est allée tirer le banquier un dimanche de chez lui pour qu'il lui donne l'argent dont elle avait besoin pour payer son billet de train. Et puis elle est partie une seconde fois quand elle a décidé de laisser Stieglitz tout seul à New York pour aller vivre, en partie en tout cas au début, aller vivre au Nouveau-Mexique parce qu'elle avait besoin de s'éloigner de Stieglitz aussi pour continuer à peindre.
Alors on va raconter les différentes vies de Georgia O'Keeffe parce que comme vient de le dire Catherine, elle en a eu plusieurs. Elle agit manifestement par rupture et par cycle. Ses peintures aussi en attestent.
Oui,
hein, il y a différents types de peintures. Mais je vous propose tout de suite d'écouter sa voix. Sa voix, c'est un film de Perry Miller Adato datant de 1977, qu'on peut d'ailleurs voir à l'intérieur de l'exposition du Centre Pompidou qui lui est consacré. La première question qui lui est posée, c'est: depuis quand avez-vous souhaité devenir artiste?
Je n'en ai aucune idée. J'y pense souvent et je me demande, mais je pense que je ne devais pas avoir plus de 12 ans quand j'y ai pensé.
Vous avez pensé à quoi?
À être peintre. Je voulais devenir peintre. Je me rappelle avoir discuté avec une petite fille. Je me souviens même de son nom, Lina Buchholz. Je lui ai dit, Lina, tu veux faire quoi quand tu seras grande? Elle ne savait pas et moi j'ai dit, je serai peintre. Et je me rappelle qu'on discutait en marchant vers la fenêtre et que je pouvais voir les enfants dehors, dans la cour d'école.
Donc au départ, une vocation de peintre très jeune, Camille Viéville. Et cependant, un apprentissage dans les plus grandes universités avec les plus grands professeurs.
Oui, elle suit une scolarité, enfin un apprentissage un petit peu chaotique parce que elle est soumise quand même au revenu de ses parents pour financer cet apprentissage. Et c'est déjà une série de ruptures. Elle n'obtient aucun diplôme parce que à chaque fois elle est arrêtée pour des raisons financières, parfois aussi pour des raisons de santé. Mais c'est vrai qu'elle se passionne pour ça et notamment à New York, elle va rencontrer quelqu'un qui a une grande importance pour elle, qui est un professeur et un artiste qui s'appelle Arthur Wesley Dow, et qui va vraiment la marquer en profondeur. Elle se souviendra toute sa vie, de toute sa longue vie, des enseignements de Dow.
Mais ensuite, comme vous l'avez rappelé, Catherine Millet, elle va rejoindre New York. Et là, elle va tomber sur un homme qui est aussi un artiste, puisque il est connu comme photographe extrêmement reconnu. D'ailleurs, quand il va rencontrer Georgia O'Keeffe, qui était très belle, comme vous l'avez souligné, et qui restera très belle jusqu'à la fin de sa vie, et je crois qu'elle va mourir à l'âge de 98 ans, il va tomber follement, éperdument amoureux d'elle, mais aussi de son œuvre.
Oui. En fait, le premier contact, c'est
d'ailleurs
avec l'œuvre.
Il est galeriste. Est-ce que vous pouvez nous restituer l'atmosphère et l'importance de cette galerie à New York dans ces années-là?
C'est encore une galerie qui s'appelle 291, parce qu'après, elle changera d'adresse et elle changera de nom. Elle a donc été fondée par Alfred Stieglitz, qui est un des très très grands des très grands photographes américains. Et surtout, autour de cette galerie et de ce personnage de Stieglitz, cet endroit fédérait tout le milieu d'avant-garde new-yorkais. Donc, en fait, la rencontre, elle s'est faite donc par l'intermédiaire de l'œuvre, parce que c'est une amie de Georgia O'Keeffe qui a pris l'initiative, en quelque sorte, d'apporter à Stieglitz des dessins de Georgia qu'elle admirait. Et lui s'est emballé tout de suite et a tout de suite décidé qu'il allait les exposer sans même, je crois, lui demander la permission. Et c'est ça un peu qui l'a choquée, elle, justement. On lui avait pas demandé sa permission. Et donc, elle prend le train pour aller voir de quoi il en retourne. Et en fait, je crois, enfin, bon, c'est... Même, je crois que leur correspondance en atteste, ils ont... Voilà, Stieglitz a eu le coup de foudre pour Georgia O'Keeffe.
Camille?
Oui, c'est un...
Réciprocité, en tout cas dans la première vie d'amour entre les deux.
Oui, oui, c'est un coup de foudre pour l'œuvre et pour la femme. Georgia O'Keeffe s'intéresse aussi beaucoup au travail de photographe de Stieglitz, et c'est quelque chose qui restera tout au long de leur vie commune, qui n'est pas simple. C'est cette possibilité d'échange autour de l'art, voilà, qui sera important, très important pour eux. Les choses vont peu à peu se gâter, et ça mènera effectivement à la décision que prend Georgia O'Keeffe en 1929 de passer désormais plusieurs mois par an loin d'Alfred Stieglitz.
Nous allons écouter de nouveau la voix de Georgia O'Keeffe. C'est toujours tiré du film de Perry Miller, Adato, et elle va raconter justement l'importance de Stieglitz à l'intérieur de ses débuts de peintre et l'amour qui va les unir. On écoute la voix de Georgia.
Le fait qu'il aime mes œuvres était très excitant, car il a dit tout de suite qu'il voulait les exposer. Du temps a passé. J'étais à Columbia. Et une fille m'a dit un jour, vous vous appelez Virginia O'Keeffe? Et j'ai répondu non, je m'appelle Georgia. Et elle a dit, eh bien, Virginia O'Keeffe expose ses dessins à la galerie de Stieglitz. Virginia O'Keeffe, bon, c'est sûrement moi. J'étais furieuse. Il avait dit à cette fille qu'il m'exposait, mais pas à moi. Quand j'y suis allée, j'étais vraiment outrée qu'il expose mes dessins sans m'en avoir averti. Mais il n'était pas là, il participait à un jury quelque part. J'y suis retournée pour qu'il décroche mes dessins. On s'est un peu disputé et ils sont restés exposés.
Pourquoi sont-ils restés exposés?
Écoutez, tentez de discuter avec lui et vous verrez ce que ça donne. Nous y étions très différents. Il aimait la ville et moi j'aimais la campagne. Mais j'ai vécu en ville pendant 30 ans.
Pourquoi avez-vous vécu en ville pendant 30 ans?
Parce que c'était là que Stieglitz vivait.
C'était un sacrifice pour vous?
Je n'ai pas eu le sentiment de me sacrifier. Je l'ai fait, c'est tout.
Georgia O'Keeffe vient de le dire, elle n'a pas eu le sentiment de se sacrifier quand elle a commencé une vie commune avec Stieglitz. Je crois que Stieglitz lui a apporté, même si elle se dit campagnarde et pas du tout citadine, elle le montrera d'ailleurs dans la dernière partie de son existence en allant vivre dans un ranch complètement perdu dans le désert. Mais je crois que la découverte de New York, l'excitation de New York, va donner lieu à un nouveau style d'œuvre, parce que ce qui a été exposé d'abord par Stieglitz, c'était... Comment pourrait-on le qualifier? Des fusains, des choses, des oui. Spirales?
Des œuvres sur papier, essentiellement, des abstractions organiques, pourrait-on dire. Et c'est vrai que Stieglitz va lui apporter un soutien incroyable en lui offrant notamment des expositions quasiment annuelles.
Qui vont obtenir du succès immédiatement d'ailleurs.
Oui, très rapidement, en soutenant, en défendant son travail auprès des critiques. Et il va aussi l'encourager à travailler davantage la peinture, à oser la peinture à l'huile, ce qui permet aussi voilà, d'affirmer son travail.
Et puis aussi, Georgia O'Keeffe, c'était une fille sans sous, quoi. Elle avait pas d'argent et Stieglitz lui propose un nouveau mode de vie, si j'ai bien compris. Il lui offre de vivre en haut d'un building prestigieux qui surplombe tout New York. Et là, va découler pour Georgia O'Keeffe une méditation sur la ville, une sorte de vision de New York. Et il y aura tout un cycle d'œuvres qui se référera à cette oui. Admiration pour la verticalité de la ville.
Oui, oui, c'est assez amusant dans l'exposition. Je crois que c'est une des choses que l'exposition montre assez bien. C'est qu'en fait, en effet, parce que Georgia O'Keeffe, elle est associée aux images de fleurs, évidemment, des corolles, et donc au contenu sexuel que ça peut avoir. Mais il y a aussi tous ces tableaux qui représentent New York, qui représentent des buildings. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ils sont très proches, ces tableaux.
Très proches des fleurs.
Très proches des fleurs. Il y a souvent... alors, c'est pas... Le pistil au milieu de deux pétales, c'est une fente comme ça entre deux buildings et on voit la lumière qui apparaît dans cette fente. Donc il y a un rapport quand même entre ces deux types de travaux de sa part et ça montre quand même que voilà, elle savait où elle allait quand même.
Camille.
Oui, et puis pour elle, c'était aussi les tableaux de quand elle commence à peindre des tableaux de building new-yorkais en 1925, c'était aussi une manière de s'emparer d'un sujet masculin. Hein, le dit elle-même, qui était considéré masculin par Stieglitz et par les proches de Stieglitz, et ils n'étaient pas tout à fait d'accord pour qu'elle abandonne ce qu'elle ne fera pas d'ailleurs, mais la peinture de fleurs au profit de ces sujets plus phalliques, pourrait-on dire.
Alors les fleurs, quand on dit Georgia O'Keeffe, on pense aux fleurs. D'ailleurs, dans cette exposition au Centre Pompidou, il y en a beaucoup. Et c'est ce qui a fait sa signature à travers le monde. Et aujourd'hui, des posters, des cartes postales. Georgia O'Keeffe, c'est les fleurs. Donc je vous propose de l'écouter parler de ces fleurs. Elle va expliquer comment lui est venue l'idée, qui est en fait pas du tout une idée illustrative, de faire des fleurs comme étaient autorisées à le faire les femmes quand elles avaient éventuellement la possibilité de faire de la peinture, soit des portraits de leurs enfants, soit des natures mortes, soit des fleurs. Mais au contraire, c'était un dispositif extrêmement abstrait et conceptuel. On écoute Georgia O'Keeffe.
Il y avait une galerie de peinture à New York que je visitais parfois et j'y ai vu une nouvelle peinture. Elle était petite, 20 sur 16, je pense. La fleur était magnifiquement peinte. Et je me suis dit que si je peignais cette fleur, juste cette fleur à cette taille, personne n'y prêterait attention. Mais cette fleur me plaisait. Alors j'ai pensé que si je la peignais en grand, les gens seraient obligés de la voir.
Certaines personnes voient une symbolique sexuelle dans vos fleurs.
Ils parlent d'eux-mêmes, pas de moi. Les gens qui voient ça, cela parle d'eux-mêmes et pas de moi.
Alors, c'est vous la spécialiste, Catherine.
Comment ça, c'est la spécialiste de quoi?
la soi-disant vision de la sexualité qu'a mise Georgia O'Keeffe dans ses peintures de plantes. On a rabattu, d'ailleurs Stieglitz au début, hein, oui. Lui-même a rabattu
oui.
Cette série de fleurs, oui. Qui sont quand même absolument sublimes, vers des choses sexuelles.
Elle s'en est beaucoup défendue. Moi, je pense que quand même, dans ce qu'elle en dit, et la manière de se défendre de cette interprétation, c'est aussi, je crois, le réflexe de n'importe quel artiste qui est un peu agacé par les discours qui reviennent toujours les mêmes sur son travail d'interprétation. Et je pense que quand même, elle était assez consciente. Et il y a certains titres d'ailleurs de tableaux qui rendent explicite la référence sexuelle, qu'elle était quand même consciente de faire une peinture avec ce contenu allusif comme ça, bon, mais que en effet il n'y avait peut-être pas que ça non plus. On peut jamais réduire un tableau, une image même à une simple, une seule et unique interprétation. Donc ça devait un petit peu l'agacer, et puis d'autant plus que ça devait être peut-être en effet exploité par Stieglitz. Après tout, Stieglitz, il n'était pas simplement son mari, il était aussi son galeriste, et que c'était un argument sans doute auprès d'une certaine clientèle que de faire valoir comme ça ce caractère très très sensuel de cette peinture. Donc voilà, il faut faire peut-être la part des choses.
Alors ce qu'elle dit aussi Georgia O'Keeffe à propos de cette série des fleurs qui vont la rendre extrêmement connue et reconnue, en tout cas dans le monde de l'art américain, durant son existence, c'est que elle a procédé par agrandissement. Elle s'est rapprochée du cœur de la fleur, si j'ose dire. Camille Viéville.
Oui, tout à fait. Et c'est là une des grandes influences de la photographie dans son travail. En 1916, Paul Strand, un photographe proche de Stieglitz, mais très jeune, commence à photographier des gros plans. C'est une des premières fois en photographie qu'on trouve un travail comme ça aussi poussé sur le gros plan. Et elle va beaucoup regarder ça. Ça va beaucoup l'intéresser. Et Du coup, elle décide aussi de se rapprocher du sujet, puisque par définition, le gros plan à la fois dévoile, montre des choses qu'on ne soupçonnait pas, et en même temps brouille la vision, puisque on ne voit plus la chose dans son ensemble. Et c'est quelque chose qui l'intéresse, et ça contient aussi, je pense, les prémices d'une dimension importante dans son œuvre, d'un thème important dans son œuvre, c'est la question du proche et du lointain, qui est aussi une question personnelle pour elle importante, et qui va se retrouver dans tout un tas de tableaux à partir notamment des années 30 et du Nouveau-Mexique.
On parle beaucoup de sensualité et on l'éprouve en voyant cette exposition qui d'ailleurs obtient un très vif succès et qui a créé un courant d'amour pour Georgia O'Keeffe, pour les Françaises et les Français qui n'avaient pas encore découvert sa peinture. Mais on ne parle pas beaucoup de spiritualité dans l'œuvre de Georgia O'Keeffe. Alors que vous, Camille Véville, et vous, Catherine Millet, dans votre article dans le catalogue consacré à Georgia O'Keeffe, vous abordez cette dimension. Je crois que c'est peut-être une spiritualité de l'amour du monde, c'est peut-être une spiritualité de la beauté du monde. Il y a le registre des couleurs. Est-ce que... Non, ça vous plaît pas, l'idée de spiritualité, Catherine?
En fait, je suis pas sûre qu'elle ait été vraiment une idéaliste comme ça. Moi, je crois, bien sûr qu'elle montre la beauté, mais enfin, mon article à moi se termine sur une citation de Georges Bataille quand même, et sur le fait que il y a sans doute une très grande proximité dans l'inconscient humain. Entre l'aspiration à quelque chose au sublime, quoi, à quelque chose qui nous dépasse, et puis en même temps à la condition humaine qui nous promet à la déchéance et à la pourriture. Bon, donc peindre des fleurs, enfin je fais une citation de Bataille, peindre des fleurs, c'est aussi combattre peut-être l'idée que cette fleur, elle va dépérir et qu'elle va pourrir. Et bon, ce qu'on peut constater, c'est que des fleurs, il n'en pousse pas beaucoup au Nouveau-Mexique.
Là où elle a passé la fin de sa vie, oui.
Ça doit être très très cultivé. Bon, c'est quand même au bord du désert qu'elle se trouvait. Et là, ce qu'elle va ramasser, c'est pas des fleurs, ce sont des ossements d'animaux. Voilà. Bon. Et donc, il y a quand même cette présence de la mort aussi. Alors, c'est vrai que il y a cette beauté du monde et les paysages. Du Nouveau-Mexique, moi je dois dire que dans son œuvre, c'est ce que je préfère, c'est vraiment très très beau. Et il y a des fois quand même ces paysages vus à travers un squelette d'animal blanchi et qu'elle a pu ramasser. Donc je crois qu'il y a cette ambivalence, c'est-à-dire que forcément vous vous trouvez face au désert, vous êtes emporté par un sentiment de sublime et une recherche sans doute spirituelle, mais en même temps vous ne pouvez pas ignorer, par exemple, qui est la conséquence d'une vie en plein désert et qui peut être la mort. Donc voilà, je crois qu'il faut un peu temporiser comme ça cette exaltation.
Camille, dimension spiritualiste.
Oui, elle s'est beaucoup intéressée dans sa jeunesse aux écrits du spirituel dans l'art de Vassili Kandinsky. Elle s'est intéressée beaucoup à Bergson, à la question de l'élan vital, qui est quelque chose qui, à mon avis, se retrouve dans beaucoup de tableaux. Il y a évidemment, oui, l'aspiration au sublime et quelque chose. Je pense que pour moi, ces tableaux de squelettes, elle dit elle-même qu'ils n'ont pas de valeur de vanité. Et en même temps, ils portent quelque chose quand elle superpose le désert et le squelette, ou le plus encore le squelette et le ciel, une conscience aiguë du temps qui passe, du temps de la terre, du temps de la roche qu'elle a sous les yeux, et du temps de la vie humaine, animale, végétale, qui est beaucoup plus court. Et je pense que c'était quelque chose qui l'a frappée aussi beaucoup dans le désert et qu'elle restitue dans ses tableaux.
Nous allons bientôt rejoindre le Centre Pompidou. Nous attend Marie Garraud pour une visite de l'exposition Georgia O'Keeffe. Auparavant, nous entendrons la voix de Georgia O'Keeffe qui expliquera pourquoi elle est partie dans la dernière phase de son existence se réfugier dans le désert. Mais auparavant, nous qui sommes en amour de Georgia O'Keeffe, vous, Catherine, j'ai l'impression que vous avez quelques réserves.
Bon, non, mais
bah, l'amour passe par des réserves aussi, c'est oui, pas oui. forcément de l'amour inconditionnel.
Non,
nous, on découvre, vous la connaissez depuis longtemps.
Non, enfin, faut pas exagérer. Je suis pas une familière de Georgia O'Keeffe. Je suis pas une spécialiste, voilà. Mais en fait, non. Mais mes réserves, c'est que peut-être justement ce que j'exprimais à l'instant, à savoir que je m'intéresse moins aux peintures de fleurs que je trouve être des peintures, voilà. Moi, je fais une différence, surtout s'agissant de la scène américaine, entre ce qui est une peinture de la touche, comme ça. Et puis une peinture du geste où le corps véritablement s'implique, puisqu'on est en train de parler de sensualité, de rapport même à la sexualité. Bon, il se trouve que les peintres américains, certains d'entre eux, commencés par Pollock et de Kooning, dont on peut voir des œuvres absolument magnifiques en ce moment au musée de l'Orangerie, ils ont impliqué leur corps dans la pratique même de la peinture. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas vraiment dans la peinture de Georgia O'Keeffe. Certes, elle représente des images extrêmement sensuelles et qui peuvent voilà, renvoyer à un sentiment du corps. Bon, mais son propre corps n'est pas impliqué dans la pratique même de la peinture. Donc c'est ça ma réserve. Par ailleurs, je trouve que c'est un grand peintre quand même. Je dis pas voilà, mais dans les choses qui m'ont intéressé moi au cours de ma carrière de critique, c'est sûrement pas son œuvre qui était une priorité. Mais je le répète, je trouve en revanche que sa personnalité est un modèle, je dirais un modèle de femme, voilà.
Camille.
Sur la
peintre abstraite, peintre conceptuel.
Son œuvre a ceci d'intéressant qu'elle traverse une certaine histoire de l'abstraction américaine depuis les années 10 jusqu'aux années 70, et ça c'est vraiment fascinant.
Nous allons écouter la voix de Georgia O'Keeffe, toujours tirée de ce film. Elle va expliquer pourquoi elle est partie au Texas, qui était pour elle un nouveau départ en tant qu'artiste, mais aussi un choix de se retirer de la peinture, entre guillemets, des galeristes et de peindre que pour elle-même. Nous l'écoutons.
J'ai toujours voulu aller au Texas parce que ma mère nous lisait des histoires tous les soirs, les samedis après-midi et les jours de mauvais temps. J'écoutais toutes ces histoires qui parlaient de western et d'indiens. Ce que je connais du Texas, ce sont les grandes plaines. Ces plaines qui s'étendaient à perte de vue comme un océan. Personne n'aimait ça, mais moi j'adorais. Le vent soufflait trop fort, la poussière volait partout. Il y avait des tempêtes de poussière et en rentrant, j'étais méconnaissable. On distinguait juste la forme de mes vêtements. J'étais de la couleur de la terre. En rentrant en voiture de la ville, on allait droit devant dans la nuit. On n'avait pas besoin de suivre la route. Quand le soleil s'était couché, en se retournant, on était éclairé par les lumières de la ville. Parfois, on perdait la ville de vue avant de la retrouver. C'était si plat. Et cette peinture de la lumière émanant des plaines vient de cette sensation. Je ne l'ai pas peinte au Texas, je l'ai faite à Canyon. J'ai accroché beaucoup d'œuvres que j'avais faites cette année-là. Je regardais ces peintures en pensant que je les avais faites pour faire plaisir à telle ou telle personne. Je ne voyais rien que j'avais fait pour moi-même, et j'ai trouvé ça faible. Alors j'ai décidé de recommencer du début. J'ai décidé de me mettre au dessin. J'avais des idées dans ma tête que je n'avais jamais envisagé de coucher sur le papier. Personne ne me l'avait appris. J'ai décidé de commencer au fusain, sans utiliser de couleur, jusqu'à ce que le fusain ou la couleur noire ne suffise plus. Je suis partie de là. Je ne me souviens pas de m'être sentie particulièrement libre. J'étais occupée. J'étais occupée la journée, alors je dessinais surtout la nuit. Je m'asseyais par terre et je dessinais contre la porte de mon armoire. eyes can see shapes.
Des yeux distinguent des formes.
It's as if my mind
et c'est comme si mon esprit crée des formes dont je n'ai pas conscience.
I can't say it any other
je ne peux pas l'expliquer autrement.
But I get this shape in my head.
Les formes s'imposent à moi.
And sometimes I know what it comes
parfois,
from,
je sais d'où elles viennent et d'autres fois, non.
And I think
et je pense qu'il y a des formes que j'ai répétées souvent dans ma vie. Mais je ne savais pas que je les répétais avant de les avoir faites.
Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can fly.
Maintenant, rendez-vous au cœur de l'exposition Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou avec sa biographe Marie Garraud.
Ben, nous voilà dans l'exposition du Centre Pompidou consacrée à Georgia O'Keeffe avec vous, Marie Garraud. Et dès qu'on rentre dans l'exposition, il y a une série de diapositives qui se succèdent pour montrer tous les visages de Georgia depuis qu'elle est jeune jusqu'à son très grand âge. On peut dire qu'elle est toujours, toujours aussi belle. Est-ce qu'elle a délibérément construit son image, selon vous ?
Je pense que oui. Alors, il n'y a pas eu de retournement, j'allais dire, de construction factice de personnalité, parce que ça va dans le sens où elle était de son image quand elle était jeune, jeune étudiante. Mais il y a de plus en plus, et notamment à partir de la rencontre avec Stieglitz, le photographe, une conscience de l'importance de la photographie et d'une presque, j'allais dire, de la mise en scène. Et les photographes ont une importance extrêmement grande, et notamment, j'allais dire, dans les années 60, où il y a une petite traversée du désert, enfin, dans la fin des années 50, et il y a un article de Life, une photo magnifique, où les profils sont de voir une vieille amérindienne comme ça, qui va relancer, j'allais dire, sa carrière, et puis en faire l'icône qu'elle est devenue aujourd'hui. en tout cas aux États-Unis.
Alors on va peut-être aller vers ces fameuses photos que Stieglitz a prises d'elle et qui ont construit sa notoriété, sa célébrité et son mythe. Avant de découvrir sa peinture, certains Américains ont découvert les photographies d'elle nue.
Oui, parce que la Stieglitz la présente une série de photographies, dont les nues, les célèbres nues, dès 1921. Et elle exposera ses peintures à elle dans cette même galerie en 23. Donc le public aura déjà connu la Georgia modèle, un modèle nu, avant de connaître l'artiste.
Donc là, on est dans le début encore de l'exposition. On passe devant des formes très abstraites, parce qu'on l'a réduite un peu trop souvent aux fleurs. Mais là, c'est une période hyper abstraite. Comment a-t-elle réussi à faire son chemin et sa place de peintre américaine au milieu de ce mouvement d'abstraction très important à l'époque aux États-Unis?
Alors, je ne dirais pas qu'elle est hyper abstraite, parce que pour moi, elle reste très figurative. Alors, elle le dit, la peinture doit être abstraite, mais pour que la figuration ait un sens. Et là, on se trouve, alors, c'est les peintures des années, c'est une période très courte, mais qui est une période importante. Ce sont les années de 25 à 30 environ, où elle peint la ville dans laquelle elle habite. Elle vient d'emménager dans cet hôtel Shelton, qui est flambant neuf, qui vient de sortir de terre, et elle est avec Stieglitz, son mari. Je crois qu'ils sont d'abord au 28e, puis au 30e étage, ce qui veut être le plus haut possible, pour avoir une vue sur cette ville. Et dans l'anecdote, c'est qu'elle s'aventure sur ce qu'ils appellent à ce moment-là le terrain des hommes, de la peinture d'hommes, et elle se dit, mais elle se lance comme un défi. Elle dit, mais pas de raison que moi je peigne pas New York. Même Stieglitz essaie de l'en détourner, et elle se démonte pas. C'est la première fois qu'elle s'offusquera d'un refus de Stieglitz de présenter cette première peinture, qui est celle-ci de New York, juste derrière vous. Il veut pas la présenter en 25. Il lui consacre une expo chaque année, et parce que il est un petit peu dubitatif sur ses capacités à peindre la ville.
Alors vous pouvez la décrire, cette peinture?
Alors c'est une vue nocturne assez poétique, c'est-à-dire qu'on a à la fois la ligne reconnaissable des buildings et puis ce halo de lumière artificielle en premier plan, de réverbère, qui fait écho à la lune que vous voyez dans le ciel nocturne derrière.
Ça peut faire penser à certains tableaux du surréalisme, notamment à Quirico, mais elle s'est toujours défendue d'appartenir d'aucune façon au mouvement surréaliste.
Oui, c'est vrai. Il y a quelques autres tableaux, vous verrez dans l'exposition, qui, notamment un crâne qui flotte comme ça au-dessus d'un paysage. On a envie de la comparer à certains surréalistes parfois, mais elle s'en est défendue.
Alors, arrivons aux fleurs, puisqu'il paraît que Georgia O'Keeffe, c'est les fleurs.
Alors là, vous avez un échantillon des... sont sans doute des plus belles. Je pense qu'elle échappe, et c'est le tour de force, elle échappe à la mièvrerie, si j'ose dire, qu'on associe quand même souvent à la peinture de fleurs. Et faire ça quand on est une femme à New York au moment du modernisme, c'est quand même assez culotté. Je ne sais pas si vous le voyez, mais déjà c'est une coloriste incroyable. Et puis l'agrandissement, c'est ce qu'elle voulait faire, ce gros plan sur la fleur et sur le cœur, sur les organes, je dis, sur le dessin de la fleur, ça en fait un objet moderne et qu'on a encore jamais vu.
Alors vous insistez dans votre biographie sur des périodes où elle n'a pas d'inspiration, où elle se sent très mélancolique, où elle coupe avec le monde. Ça va lui arriver à plusieurs reprises dans son existence, à Georgia O'Keeffe. Est-ce que ces périodes ont été importantes pour créer des ruptures à l'intérieur de son style? Parce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs styles hein, dans l'œuvre de Georgia O'Keeffe.
En tout cas, oui, il y a plusieurs périodes et qui sont très liées à la géographie, à les lieux où elle vit, et les dépressions, enfin, les épisodes mélancoliques au sens fort du terme qu'elle vit, se marquent aussi des ruptures géographiques. Et une des plus importantes, c'est celle de la fin des années 20, où pour plusieurs raisons, mais voilà, il y a l'échec d'une grande commande pour le Rockefeller Center, elle tombe malade, enfin une tumeur au sein dont elle est opérée, Stieglitz la délaisse plus que d'habitude encore, et donc elle arrête de peindre pendant quasiment une année entière. Et c'est en le voyage, je veux dire, en tout cas le départ, qui la fera retourner à la peinture. Et je pense qu'il y a vraiment une, à chaque fois une impulsion du mouvement géographique et de ces pays, divers paysages américains qui nourrissent et qui inspirent des nouvelles phases dans sa création.
Oui, elle ira en Europe, elle ira en France, elle ira au Japon.
Oui,
et c'est une grande voyageuse.
C'est une grande voyageuse, alors à cheval, à pied, elle randonne des heures et des heures dans la nuit, dans des régions assez dangereuses. Là, il y a une faune, une flore hostile. Et puis après, il y a la découverte du monde, après la découverte de l'Amérique, c'est après la mort de Stiglitz dans les années 50. L'Europe reste le dernier choix, si j'ose dire, et plutôt attirée vers l'Asie, qui est aussi ses premières amours. Là, c'est l'influence de l'art oriental qui l'a beaucoup marqué dans ses années d'étudiante.
Et là, donc, dans la dernière partie de son existence, elle va, qu'est-ce qu'on peut dire, se retrancher dans le paysage qu'elle aimait par-dessus tout pour pouvoir méditer et continuer à travailler.
Travailler surtout, j'allais dire encore plus que méditer. Alors, elle est très solitaire, avec ses deux chiens. Elle reçoit aussi beaucoup d'amis. Alors, c'est des amis choisis, triés sur le volet, parce qu'elle est très très peu qui trouve, j'allais dire, grâce à ses yeux, en tout cas dont elle accepte la compagnie. Et elle va se retrancher dans ce paysage du désert que vous avez. Ça, c'est l'arrière-plan de la maison de Ghost Ranch. Et quand elle parle de ses voyages en Europe, au Pérou, qui est un voyage important aussi, c'est à chaque fois pour mieux revenir dans ce paysage qu'elle s'est choisi et où elle finira sa vie et qu'elle a peint de diverses façons, parce que vous avez à la fois la géologie, vous allez le découvrir dans les autres salles aussi, et une présence du catholicisme hérité de la colonisation espagnole. Donc on a des croix comme ça, des grandes croix noires. Elle dit que le catholicisme a revêtu un voile austère aussi sur ce paysage, et puis un art qui est en tout cas inspiré, en tout cas qui rend hommage à la population amérindienne, qui vit, je veux dire, avec qui elle vit en bon terme. C'est toute une communauté, et ça on le découvre dans la dernière salle de l'exposition. Ce sont des œuvres très, très émouvantes.
Est-ce qu'on peut dire, Marie Garraud, que la fin de sa vie s'est déroulée comme une sorte d'ermite dans cette maison qu'elle s'est choisie, où elle voyait très peu de monde, où elle admirait le paysage, où elle peignait et où elle a fait son jardin dans tous les sens du terme?
Une ermite, oui, sachant qu'elle accepte encore, c'est le paradoxe, une immense notoriété, puisqu'elle est, il y a quand même fréquemment des reportages photos, dans des presses, quand même un grand tirage. Donc elle est à la fois une solitude, enfin, presque recluse, et en même temps une visibilité très, très étonnante. Enfin, là, à la Andy Warhol, presque à la fin de sa vie. Enfin.
Alors, on s'achemine vers la dernière partie de l'exposition. Alors, nous allons vers le dernier tableau, qui là aussi rompt peut-être, le dernier cycle de tableaux rompt peut-être avec les images toutes faites qu'on a de l'œuvre de Georgia O'Keeffe.
Alors, oui, déjà, vous allez voir, ce sont des formats plus grands. Alors le plus grand de ces formats n'est pas là parce qu'il n'est pas déplaçable, il est à Chicago, c'est un immense ciel, des nuages sont comme des petits pas japonais. Mais là on a quand même à la fois, il y a deux choses, c'est à la fois cette porte, ce carré noir que vous voyez presque à la Malevitch, mais qui est en fait la porte de sa maison. Donc là aussi, figuration, abstraction, la frontière est plus tellement même importante, si j'ose dire. Et puis ce très beau ciel à gauche, d'un blanc... C'est un des tableaux les plus lumineux de son œuvre et de l'exposition. Voilà, on ne sait plus si c'est un paysage de neige, un ciel vu d'avion, parce que c'est les années aussi où elle peint ce qu'elle a vu après avoir pris l'avion. Donc c'est aussi une nouvelle perspective encore. Tout ça pour dire qu'il y a un renouvellement à chaque fois dans son œuvre permanent jusqu'à la fin. Donc il y a une œuvre qui a traversé tout le siècle en se réinventant, qui force l'admiration.
Elle vous avait changé de rapport à la beauté, Georgia O'Keeffe?
Je dirais que ce qui a changé, c'est peut-être après avoir vu la lumière effectivement du Nouveau-Mexique. Où je suis allée, je me disais que c'est sans doute un très beau paysage, mais il y a quelque chose à la pureté et de l'intensité aussi de la lumière, parce qu'on est aussi à 2000 mètres d'altitude. qui fait que j'ai compris en tout cas un peu mieux peut-être, ou en tout cas regardé différemment sa peinture, et notamment la peinture de la fin de sa vie, qui me paraissait sans doute moins intéressante au début, et que là je cesse de redécouvrir, et je trouve un intérêt de plus en plus fort.
Vous comprenez l'engouement de Georgia O'Keeffe?
Oui, et je suis ravie que le public ait accès à son œuvre, le public français en tout cas, ait accès à son œuvre. Enfin, oui, je pense qu'elle est. Je pense qu'on comprend à la fin de l'exposition que c'est vraiment une grande artiste du XXe siècle, injustement oubliée par l'histoire de l'art français.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage, j'aime l'amour vertigo. Je suis passée par le banc là où l'été est tombé entre toi et moi, mon grand, là où tu as ramassé mon grand. Il n'y a qu'un parking blanc l'été, tu sais filer entre toi et moi, mon grand. Il n'y a plus rien d'élégant, plus rien d'élégant. Je manquais sûrement de finesse. J'ai été souvent aussi patiente, jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur, je paraphrase. Pourquoi je pleure en décalage.
Et c'est avec Vertigo d'Alexia Grédy que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Camille Viéville, à Catherine Millet, à Marie Garraud. Je rappelle que vos livres respectifs, tous consacrés à Georgia O'Keeffe, viennent d'être publiés. Vous trouverez les références sur notre site. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanissian et à Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission.